Aujourd'hui, je vous fais une vidéo comme je vous avais fait il y a un an sur 10 films sous-cotés. Du coup-ci, je mets peut-être un peu plus de mes recommandations perso, mais c'est 10 films qui, selon moi, n'en a pas assez parlé et méritent votre attention. Vous voyez comment je suis bon avec vous autres, moi? Pas de faire, c'est un merci une fois de temps en temps. Je pense pas que ça tuerait personne. Donc, sans plus tarder, top 10 de films sous-cotés encore, ça commence maintenant. Je commence par vous faire entrer dans l'univers de Taylor Sheridan. Taylor Sheridan, vous le connaissez sûrement à cause de ses séries comme Yellowstone, Lioness et dernièrement Landman. En passant, petite parenthèse, si vous regardez la série Marshall, vous allez être vachement déçu. J'ai vu 2 épisodes, je peux pas regarder le 3e, non. Je crois que c'est sa première fausse note, c'est pas le bon ton de série, c'est complètement différent de toutes ses autres séries, c'est fait pour CBS, qui est une énorme chaîne américaine, et c'est pas bon. C'est pas bon. Quand je dis c'est pas bon, moi j'ai pas aimé ça. Soyons clairs là-dessus, moi je trouve que c'est pas bon. C'est hyper décevant. Mais ça n'empêche pas que Taylor Sheridan a fait plein d'autres bonnes choses. Et ça m'amène à sa carrière cinématographique. Ben oui, parce que le gars, il a écrit et réalisé des films. Et je vais commencer par un film qu'il a écrit qui s'appelle Hell or High Water ou Comancheria, sorti en 2016.
Vous allez aussi voler mon flingue?
C'est pas vous qu'on vole, c'est la banque.
C'est un film avec Jeff Bridges, Chris Pine et Ben Foster. Et je vous dis tout de suite, Ben Foster est sublime là-dedans. Jeff Bridges est magnifique. Même Chris Pine, qui n'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement, est très bon dans ce film-là. C'est pour vous dire la qualité du scénario. Et c'est une histoire hyper simple de gens dans la misère qui vont devoir faire des choses qu'ils veulent pas forcément faire pour se sortir de la misère. Un concept très connu dans l'univers de Sheridan, et on est clairement dans son univers à lui. On est au Texas, on est à Midland, la même ville que Landman, et c'est très immersif aussi. C'est l'Amérique qu'on nous montre rarement au cinéma, ce qui fait en sorte que c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on voit à tous les deux films, quoi. Ça se passe ni à New York, ni à Los Angeles. On est en plein cœur du Texas. On est dans la misère de du white trash, comme on pourrait dire. Et Hell or High Water est un... c'est un western moderne, je dirais, où la police vont pourchasser 2 frères qui ont commis des vols de banque. Et j'essaie de faire le moins de spoilers possible parce que je suis pas un sauvage. Clairement, un film à voir ou à revoir si vous l'avez déjà vu, selon moi. Il est trouvable sur les plateformes. Vous allez passer un bon moment. C'est du Taylor Sheridan et c'est super bien fait.
C'est pour voir le braquage de la banque qui me vole depuis 30 ans.
Un autre film de Taylor Sheridan, et il l'a réalisé celui-ci, c'est Wind River.
C'est un homicide.
Je connaissais cette fille. C'était une battante.
Sorti un an après Hell or High Water, Wind River, lui, nous transporte dans l'univers des réserves amérindiennes. Oui, on se retrouve au Wyoming, dans une réserve amérindienne où il y a eu un meurtre. Une agente du FBI se pointe. Elle va être aidée par un mec local qui va vraiment lui sauver les miches. Parce que les réserves amérindiennes, c'est gigantesque, hein? Et il y a très peu de policiers. Je crois qu'à un moment donné, il dit, genre, il y a 6 policiers pour couvrir un territoire de la taille du Rhode Island. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas facile de résoudre des crimes quand t'as pas de personnel, quoi. Mais comparativement à Hell or High Water, ça se passe en hiver. Et c'est rare qu'on réussisse à bien montrer l'hiver dans les films. Et moi, je trouve que Wind River réussit. Tu sens le froid, la neige, l'isolation de ces gens-là, tu sens tout. Taylor Sheridan la réalise et l'écrit, celui-là, et il fait un super boulot. Les stars du film sont Elizabeth Olsen et Jeremy Renner, 2 Avengers, et t'oublies que c'est des Avengers quand tu regardes le film, parce que c'est bien fait, parce que c'est bien écrit, parce que tu t'attaches au personnage, tu veux qu'il survive, parce que tu y crois, quoi. Et c'est un plus pour le film. C'est vraiment un film que je conseille. Ben, les deux, Hell or High Water et Wind River, c'est deux films que si vous ne les avez pas vus et que vous aimez le travail de Sheridan, vous aimez Yellowstone, vous aimez Landman, vous aimez Lioness, je vous le conseille. Vraiment. Si vous aimez Marshall, je suis désolé.
Je chasse des prédateurs.
Alors que diriez-vous de venir en traquer un pour moi?
Maintenant, un film qui est sorti sans faire de flafla, sans avoir 150 vidéos sur YouTube qui est sorti sur lui. Il est sorti en 2025, ça s'appelle Roofman ou Un homme sur le toit.
On aimerait tous retourner dans le temps pour voir si les choses se seraient passées différemment.
Channing Tatum, qui fait très peu de films, bizarrement, vu sa cote de popularité, c'est un gars qui travaille pas énormément. Je sais pas pourquoi. Dans ce film, t'as également Kristen Dunst et Peter Dinklage, le nain de Game of Thrones. Et quand j'ai vu ce film-là, je vous mentirai pas, je n'avais aucune attente. Et quand je vous dis aucune attente, j'avais zéro attente. J'ai été agréablement surpris, j'ai passé un très bon moment. Déjà, c'est la prémisse d'un mec qui doit se cacher à quelque part et il se cache dans un Toys R Us. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un Toys R Us, c'est comme un King Jouet. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un King Jouet, ben un King Jouet, c'est comme un Toys R Us.
Bonjour tout le monde! Non, ayez pas peur.
Et tout est juste, la réalisation est juste. C'est un peu un film où tu passes un bon moment parce que les personnages sont attachants, parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien réalisé, parce que la prémisse est drôle au départ. Et c'est juste un petit film touchant. T'as des petits moments touchants là-dedans à travers ça. C'est pas un film qui va changer le monde, puis c'est pas un film qui a pour objectif de changer le monde. C'est juste un super bon divertissement qui vaut la peine d'être vu. Je vous parlais à la fin un peu plus de ce que je vois du cinéma présentement. Là. Depuis la grève et tout, là, on a les films qui devaient sortir et tout, et je vous en parlerai à la fin de ça. Mais si vous voulez passer un bon moment, je pense que vous pouvez même le regarder en famille, celui-là. Roofman, c'est un bon petit film. Vous allez passer un bon moment. C'est vraiment mieux que beaucoup de choses qui sortent au cinéma, et je crois qu'il est disponible sur Prime. Un autre film de plateforme qui est sorti sans faire presque aucun bruit, c'est Wolves, les loups, ouais, avec Brad Pitt et George Clooney.
Vous êtes qui?
Je suis là pour gérer votre problème.
Qui vous a contacté?
Comment ce film-là n'a pas fait plus de bruit quand il est sorti, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Déjà parce que t'as deux méga stars, deux des dernières stars du cinéma sont dans le film, et on n'a presque pas entendu parler. Et quand je vous disais que je comprenais pas, je sais très bien pourquoi on n'a presque pas entendu parler, parce que c'est sorti sur Apple TV. Et bien que plusieurs personnes ont iTunes, très peu ont Apple TV. Et tout ce qui sort sur Apple TV passe plus ou moins sous le radar de tout le monde. C'est triste parce que Wolf est encore une fois un super bon divertissement avec deux mégastars qui nous donnent exactement ce que deux mégastars doivent nous donner dans ce genre de film-là, soit des expressions, des manières d'être. C'est clairement Brad Pitt et George Clooney qui ont passé trois semaines, un mois en vacances ensemble à quelque part pour avoir le plaisir de faire un film ensemble, mais le film marche quand même. J'avais vu quelques critiques du film à sa sortie sur YouTube, j'avais trouvé les critiques très sévères. Moi, j'ai eu du plaisir à regarder ce film-là. Faut dire que les deux mecs sont hyper charismatiques, ça fait passer la pilule un peu sur certaines irrégularités scénaristiques. Quand ça sort de la bouche d'un Brad Pitt ou d'un George Clooney, ça sonne toujours mieux. C'est pour ça qu'on appelle ça des stars du cinéma. Un jour, il n'y en aura plus et on se demandera pourquoi. Eh bien, parce qu'ils ont sorti des films sur Apple TV. Pas de farce. Qui c'est qui regarde des films sur Apple TV? Sérieux. D'ailleurs, je pense que je pourrais faire une chronique au complet sur tout ce qui sort sur Apple TV qui est bon, mais que personne ne va jamais voir. Mais ça sera pour un autre jour. Bref, si vous n'avez pas vu Wolf, je vous le conseille sincèrement. Je suis sûr qu'il n'y aura jamais de sortie physique. Donc, la seule manière de le voir, ça va être via Apple TV. Mais je vous le conseille. C'est encore une fois un bon petit film d'action. J'aime le fait que ça se passe sur une nuit. Clooney, Brad Pitt. Ça marche ensemble, là. Ça a été prouvé avec trois Ocean's Eleven. Là. Ça fonctionne, là. Il y a une chimie, ça marche.
Des associés secrets.
Non, je te l'ai dit, on n'est pas associés.
Maintenant, un film d'un tout autre genre, Kneecap.
Why don't you just speak the Queen's English?
Kneecap est un film sur la création d'un groupe de rap en Irlande du Nord, à Belfast pour être plus exact. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un film sans aucun message politique qui n'aborde absolument pas l'occupation britannique du territoire irlandais.
Every story about Belfast starts like this.
Bien sûr qu'il y a plein de messages politiques là-dessus. Bien sûr que les Anglais en prennent pour leur gueule. Mais d'un autre côté, c'est aussi un film sur la modernisation des idéologies où les membres de NICAP s'interrogent sur la valeur de l'IRA, le problème britannique, etc. et créent un groupe de musique rap qui va devenir très connu en Irlande du Nord et apporter une nouvelle facette à ce combat-là. J'aime pas trop parler de politique sur ma chaîne, donc vous pouvez mettre tous les commentaires politiques que vous voulez, je répondrai pas. Par contre, je vais vous dire que si vous avez pas vu NICAP, c'est vraiment un film à voir. Après, il parle énormément en irlandais ou en gaélique, si vous préférez, dans le film, parce que la langue fait partie de leur identité. À voir. C'est un film à voir. Si vous aimez le rap, en plus, vous allez adorer ça. Si vous détestez le rap, c'est un film qui va vous faire chier parce que vous accrocherez pas en musique, vous accrocherez pas en rien. Mais bref, morale de l'histoire, si vous voulez voir un bon film, moi, j'ai aimé ça. Puis c'est ça. Fait que je répondrai pas à vos commentaires politiques en dessous. Parce que c'est une chaîne de ciné. Passons au prochain. Et maintenant, Commando Ninja 2.
Ici, chez nous.
Ah ben oui, vous le savez, j'ai adoré Commando Ninja 1. Je pense que c'est un film dont tous les abonnés de ma chaîne peuvent regarder et avoir du plaisir. Et je vous dirais tout de suite que le 2 est aussi intéressant que le 1. Même que le 2 est un peu plus professionnel, il est un peu plus long, il est très généreux dans ce qu'il nous offre, autant dans les refs, autant dans les phrases qui tuent, autant dans l'action. C'est hyper plus généreux que le premier. Si vous avez aimé Primitive War, vous allez adorer Commando Ninja 2. Si vous avez aimé Commando Ninja 1, vous allez adorer Commando Ninja 2. C'est la promesse d'une suite qui déçoit pas. Ça, c'est rare.
Je crois qu'on va avoir besoin de soutien.
Et je suis un peu mal placé pour faire la promotion de ce film-là parce que, vous le savez, j'ai reçu le réalisateur à Revue le podcast. Le réalisateur m'a envoyé une copie numérique du film bien avant sa sortie. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça n'influence en rien ma recommandation parce que déjà, s'il me l'a envoyé, c'est parce qu'il sait que j'aime ce genre de conneries-là. Donc, et j'ai pas fait encore de vidéo sur ce film-là et un jour, j'en ferai une. Mais je vous dis que si vous ne l'avez pas vu, c'est un film à voir. Si vous êtes fan de la chaîne, vous aimez quand je parle de films, vous allez adorer Commando Ninja 2 parce qu'il y a toutes les refs que vous aimez dedans. C'est ça qu'on aime, hein? Ça fait plaisir de voir que c'est fait par un Français en plus, hein? Lui, il ne demande pas de l'argent au CNC pour faire ses trucs. Non, il se démerde tout seul et il demande à sa commu de l'aider. Un exemple à suivre. Un de mes énormes coups de cœur de 2025 maintenant, un film qui me rappelle que quand tu donnes un peu d'argent à quelqu'un qui a beaucoup de talent, tu vas avoir quelque chose d'incroyable. C'est le remake de Deathstalker.
Oh wow!
Deathstalker, j'ai fait le 1, le 2 sur la chaîne en vidéo, des films qui datent des années 80, des films que j'adore pour des raisons que je ne comprendrai jamais, mais qui me divertissent à fond. Deathstalker de 2025 a un ton complètement différent des films des années 80. Déjà, c'est réalisé par Steven Kotensky qui avait fait Psycho Gorman pour vous donner une idée. Et le ton du film est totalement différent. C'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus Donjons et Dragons. Et voici maintenant une annonce de revue. Deathstalker de 2025 est le meilleur film Donjons et Dragons qui n'est jamais sorti au cinéma ou sur une plateforme. En tout cas, qui a été tourné. Deathstalker 2025, meilleur film, Donjons et Dragons. Je vous jure. Pour les rôlistes, vous allez vous retrouver dans ce film-là et vous allez être gâtés, OK? Mais pour les fans d'effets pratiques, là, de durs, là, non seulement vous allez vous retrouver dans ce film-là, mais vous allez être éblouis. Deathstalker offre des effets pratiques digne des meilleurs films des années 80, des trucs qu'on adorait. C'est juste génial. Les créatures, le sang, les bestioles, tout fonctionne. c'est juste splendide. Il n'y en a pas une que tu dis, ah, celle-là, ils l'ont faite vite parce qu'il n'y avait plus d'argent, quoi. Chaque truc est fait comme il faut, quoi. Le mec a pris le temps. Tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut, quoi. Et ça se voit à l'écran. The Mighty Deathstalker! Il y a même Patton Oswalt, un humoriste et comédien assez connu aux États-Unis, je pense, qui fait une apparition dans le film en tant que voix. Oui, il fait la voix de Doudad, et vous verrez c'est qui Doudad quand vous regarderez le film, parce que vous allez le regarder. Tu sais, vous allez vous y mettre là, là. Vous allez... Dès que vous avez fini ma vidéo, là, vous le trouvez, puis vous le regardez. C'est pas une suggestion. Maintenant, allez! Come and get it. Maintenant, un film que j'ai revu cette semaine et qui m'a foutu une de ces déprimes. Ça m'a pris presque 3 jours pour m'en remettre. Un film de 2006, Idiocratie. Pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce. Celui-là, il fait mal parce que quand on le revoit maintenant, c'est presque plus un documentaire qu'un film. C'est là que ça devient triste. C'est que ça devient comme un documentaire. J'aurais également pu choisir Office Space de Mike Judd, du même réalisateur, qui était un film qui nous avertissait sur le travail en général, quoi. Que de travailler dans un bureau, c'était l'enfer sur Terre. Avec Idiocratie, il nous dit plus que l'enfer, c'est les autres êtres humains, quoi. Et qu'on est donné à devenir de plus en plus abrutis. C'est pour ça que je vous dis que si vous êtes quelqu'un de sensible, c'est peut-être pas le film à revoir en période d'élection et c'est surtout pas le film à revoir si vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux parce que vous allez vous rendre compte qu'on est presque rendu là. Hein? Tout le monde avait le sentiment que l'avenir serait fantastique. Eh bien, 20 ans après la sortie d'Idiocratie, on se rend compte que... Ouch! C'est vrai qu'on devient con. Le pire dans tout ça, c'est qu'Idiocratie se passe 500 ans dans le futur. Alors que nous, on est juste 20 ans après Idiocratie et ça commence déjà à ressembler à Idiocratie. Ça, ça pique. Si vous ne l'avez jamais vu encore une fois et que vous n'êtes pas prompt à la dépression, je vous conseille quand même de le voir. C'est un film d'une importance capitale à la survie de l'être humain, je pense. Le phénomène se perpétua de génération en génération. Si vous vous souvenez, dans ma première vidéo de suggestion slash film sous-côté, j'avais fait The Other Guys avec Ryan Gosling et Gladiator. Ça, The Other Guys, c'était un film de Shane Black. Ben là, je remets un autre film de Shane Black dans ma liste parce que souvent, les gens confondent le Shane Black de L'Arme Fatale. Ouais, ils disent, il a juste fait ça. Non, il a fait des trucs géniaux aussi, c'est juste qu'on en entend moins parler. Et ce film-là, eh ben, c'est Kiss Kiss, Bang Bang. Harry était un escroc minable. Oh non, jusqu'à ce que... Si certaines personnes diront que les meilleurs Shane Black, c'est bien sûr ce qu'il a fait avec L'Arme Fatale ou qu'il a retouché le scénario de Predator, etc. Moi, je vous dirais que le meilleur scénario de Shane Black qu'il a jamais écrit dans sa vie, c'est Qu'est-ce que c'est Bang Bang? Oui, Qu'est-ce que c'est Bang Bang? Oui, Qu'est-ce que c'est Bang Bang? L'intrigue est géniale. Robert Downey Jr. dans ce film-là, il est fantastique. Il paraît que c'est le rôle qui a permis d'obtenir celui de le rôle d'Iron Man. Donc, tant mieux. Val Kilmer dans ce film-là est juste magnifique. Vous voyez, juste à y penser, ça me fait sourire. Je pense à Val Kilmer dans ce film-là, je souris. Et tous les personnages secondaires ont leur utilité. Il y a des phrases qui tuent, encore une fois, il y a les dialogues de Shane Black qui sont toujours spectaculairement drôles et efficaces. C'est tourné à Los Angeles. C'est du Shane Black, quoi. Mais c'est de ce que Shane Black est capable de faire de le mieux. Ça, The Other Guys, Long Kiss Goodnight, c'est selon moi ce qu'il fait de mieux. Et il le fait exceptionnellement bien dans Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang, c'est trop bon. Et je sais que c'est un film qui date d'il y a 21 ans. Je sais que la plupart d'entre vous l'ont sûrement déjà vu, mais si vous avez jamais vu Kiss Kiss Bang Bang, il faut absolument le voir au moins une fois dans sa vie. Et si vous l'avez vu, ça fait 10 ans, ben c'est le temps pour vous autres de le revoir, quoi. Non, mais... Si on les revoit pas, ces films-là, ils vont tomber dans l'oubli. Je serai pas toujours là pour vous les rappeler. Escadavre! Je l'ai acheté! Oui, idiot! Non. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Mon film préféré de 2025, un film qui a gagné aucun prix et c'est une véritable honte, c'est She Rides Shotgun, La Place du Mort.
À partir de maintenant, on est tout seul.
J'enregistre cette vidéo-là le lendemain des Oscars, OK? Et Michael B. Jordan vient de gagner le prix du meilleur acteur en 2025. Et regarde, Sinners a gagné une chier de prix à travers la tournée des prix. Là, je sais pas, ils ont gagné plein de trucs, une bataille après l'autre aussi. Mais aucun acteur, OK, qui a gagné des prix a le niveau de Taron Egerton dans She Rides Shotgun. Je vous jure. Si vous regardez ce film-là et vous me dites que Taron Egerton ne méritait pas au moins une nomination pour un prix du jeu, eh bien, vous vous mentez à vous-même plus que vous mentez à moi. C'est une meilleure performance de Taron Egerton que ce qu'il avait fait dans Elton John. Pas de farce. Le gars est génial dans ce film-là.
Je veux plus jamais devoir appuyer sur la détente.
Et ce film-là, je veux pas vous le spoiler, mais je vous dirais que c'est un film qui traite d'émotions complexes, de la relation entre un père et sa fille, pourchassée par des gens qui veulent les tuer. C'est complexe comme émotion. Il y a une scène dans un arrêt routier dont vous allez vous souvenir sûrement toute votre vie après l'avoir vu. C'est le film qui m'a le plus marqué de 2025. Selon moi, c'est le meilleur film de 2025. Selon moi, Taron Egerton offre la meilleure performance de 2025 masculine, de loin. Même la petite fille qui joue Anne-Sophia quelque chose, qui joue la petite fille dans le film, est géniale. Et vous savez que je déteste les gamins dans les films. Mais là, ça marche. Là, ça marche. J'ai essayé de faire la promotion de ce film-là sur toutes les plateformes que je connais, Patreon, X, YouTube, sur des lives de d'autres gens. Et apparemment, presque personne l'a vu. Pourtant, il est disponible sur Prime Video. Est-ce qu'il est dans votre algorithme? Je ne sais pas. Mais il est disponible sur Prime Video en France, au Québec, en Suisse, en Belgique. Donc, je vous conseille vraiment de prendre le temps d'aller voir ce film-là. C'est grandiose, selon moi. C'est le meilleur film de 2025. Et ça fait 4 fois que je vous dis que c'est le meilleur film de 2025. Donc, je n'ai pas dire n'importe quoi. Hein? Hein? Est-ce que je vous mentirais, moi?
Je veux que tu me laisses gérer ça si jamais on doit en arriver là.
Pour vous dire qu'il y a un truc que vous allez remarquer en regardant les films que je vous ai nommés, surtout les films plus récents, et avec les films que vous avez sûrement vus dernièrement, comme The Wrecking Crew, The Rip et War Machine. Il y a une nouvelle mode à Hollywood qui est de ramener le cinéma des années 90. C'est clair pour moi que c'est arrivé. Et tant mieux pour nous. C'est les 3 films que je vous ai nommés, moi, c'est 3 films qui m'ont bien diverti. Et s'il y a un film comme ça qui sort par mois sur plateforme, eh bien, ça va valoir l'abonnement des plateformes presque. Parce qu'on a eu des années difficiles. Hein. Je vous répète, là, avant, là, c'était compliqué. Mais depuis le début 2026, il semble avoir ce retour-là aux années 90 dans le cinéma qu'on nous montre, qu'on choisit de nous montrer, le cinéma qui sort, surtout sur les plateformes. Des films peut-être avec des budgets moyens, mais qui nous offrent exactement ce que le cinéma des années 90 nous offrait. De l'action, de l'intrigue, du suspense, des films de club vidéo, quoi. Et ce coup-là, peut-être que Netflix, Prime et tout ça ont compris leur rôle qui est de nous offrir des films de club vidéo. Donc, l'espoir est pas mort, OK? Peut-être que 2026 va être une bonne année de ciné si on a des films de cette qualité-là qui sort. Peut-être qu'on va, à la fin de l'année, se dire « Bon, ben il y a eu un retour de balancier après quelques années de grosse merde. On finit enfin par avoir quelque chose qui vaut la peine d'être regardé. » Si vous aimez la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un message, à mettre le pouce vers le haut parce que ça aide l'algo et ça m'aide donc moi par conséquent. Si vous aimez la chaîne encore plus, vous pouvez vous abonner à Patreon à partir de 3€ par mois. Vous aurez le droit à des vidéos exclusives, sans pub et non censurées. Sur ce, on se dit bien sûr, à la prochaine fois.